Cette semaine dans l'Olivret, j'ai la joie d'accueillir Alexandre Pau. Bonjour.
Bonjour Hélène.
Vous êtes professeur d'histoire dans un collège, hein ?
Oui, au collège Saint-Jean à Bagnols-sur-Cèze.
Très bien. Et vous avez une classe patrimoine, c'est ça ?
Voilà, il y a une classe en cinquième. Le programme en histoire-géographie traite de la période médiévale. Et donc, c'est une période sur laquelle on a des facilités pour faire découvrir l'histoire aux enfants. Et donc, voilà, cette classe patrimoine s'adresse en particulier à ces élèves de ce niveau, en tout cas.
On va y revenir à cette classe patrimoine, mais déjà, vous êtes venu avec une très belle revue de Gare Patrimoine. Vous faites toujours partie d'une association, la Fédération archéologique et historique du Gard.
Oui, c'est une fédération qui vient de fêter ses 20 ans. D'ailleurs, ce numéro, il s'inscrit dans un anniversaire aussi très particulier, puisqu'on commémore cette année les 80 ans de la libération dans le Gard. Et donc au mois de février dernier, la FAG a pu fêter, on peut dire en quelque sorte, son anniversaire aux archives départementales du Gard, où pendant 2 jours, elle a pu proposer une exposition. L'exposition a eu lieu dans l'accueil des archives départementales. Du coup, chaque association a pu proposer ce qu'elle faisait en ce moment, donc avec notamment une présentation sur des roll-up. Donc il y avait une espèce de continuité qui était proposée aux visiteurs. Et parallèlement à cette exposition, il y a eu aussi un cycle de conférences sur 2 jours. Et donc c'était un moment assez chaleureux. Et on était très heureux de pouvoir montrer ce que font on est une quarantaine d'associations dans cette fédération. Et il y a eu des conférences diverses et variées sur des thématiques de l'Antiquité jusqu'à nos jours. On a pu parler d'histoire, d'archéologie et de nouvelles technologies. Donc, ça a été l'occasion aussi de reparler du patrimoine vu du ciel, notamment par les drones. Donc, on a pu proposer.
C'est un sujet qui vous intéresse bien, ça. Hein,
qui était déjà l'objet de la revue, du deuxième volume de la revue. Donc, là, c'est le troisième. Troisième, on essaie de proposer des thématiques quand même assez différentes à chaque fois pour ouvrir la palette des découvertes du patrimoine.
Il me semble que vous y êtes pour quelque chose sur le thème qui est de ce numéro, le numéro 3, patrimoine mémorial de la Seconde Guerre mondiale. Vous y êtes pour quelque chose dans ce choix-là, hein ?
Voilà, en 2023, bon, moi je suis professeur d'histoire, donc on est très sensible aux commémorations et aux anniversaires, et donc 80 ans, c'est quelque chose d'important. Parler de la mémoire de la Seconde Guerre mondiale aujourd'hui, je pense que c'est quelque chose de... On peut pas toucher un sujet plus brûlant. Il est important que la jeunesse aujourd'hui comprenne tout l'intérêt de s'attaquer à ce genre de sujet. Le Gard a été un département qui a résisté. Alors bien sûr, c'est pas une frontière départementale qui constitue un mouvement de résistance. On a eu des groupes de résistants ici, pas loin, dans le Rhône, au bord du Rhône. Il y en avait dans le Ventoux, il y avait un maquis dans le Ventoux. Mais bien entendu, il y a eu des actes de résistance qui sont parfois isolés. Donc les gens passent dans une rue, il y a un nom sur une plaque, les gens savent pas qui est cette personne, et en fait ce patrimoine-là, il a tendance à être oublié. Et donc dans la démarche que j'avais engagée en 2023, j'ai essayé de proposer aux associations de la fédération de mettre en relief le patrimoine mémoriel qui se situait à l'échelle de leur commune. Ça peut être parler d'un monument. Alors souvent il y a chaque commune a son monument aux morts.
Et souvent ça date de la Première Guerre mondiale.
Oui, c'est une démarche qui a été engagée dans l'entre-deux-guerres pour commémorer l'hécatombe des morts pour la France. Il y a toute une dimension mémorielle qui se développe dans l'après-victoire de la France dans le premier conflit mondial. Et donc, on essaie de pas oublier les enfants du pays, les enfants du village, ceux qui sont tombés. De la même manière, après la Seconde Guerre mondiale, il a été important de commémorer les actes de résistance parce que, bien évidemment, la France a été occupée, donc résister à cette époque-là, c'était pas quelque chose d'inné. Chacun a essayé de jouer sa partition en fonction de la vie qu'il menait. C'est pas des actes simples à défendre. Et là, du coup, ce patrimoine, donc je parlais des monuments aux morts, mais ça peut être simplement des stèles, des lieux. Ici, à Pont-Saint-Esprit, il y a un fort, donc qui a été aussi le lieu d'exaction des nazis. On retrouve la même chose à Alès. Donc, j'ai proposé un article article sur le Fort Vauban d'Alès, qui a connu dans ses cellules des actes de torture. Et donc tout ça, c'est très documenté. J'ai pu accéder à de la documentation qui est gardée précieusement aux archives départementales, où on a un enregistrement de témoignages de tout ce qui s'y est passé. Et donc je pense que pour témoigner aujourd'hui de, et surtout plus refaire la même chose, hein, parce que les gens ne connaissent pas le prix de la liberté qui a été acheté par les personnes à l'époque, eh bien il faut expliquer qu'au détour d'une rue, parfois on passe à côté d'un monument, et ben il faut prêter attention, il faut commémorer, il faut citer les noms des gens qui ont été des héros. Et dans cette revue d'ailleurs, il y a un aspect que j'ai voulu aussi qu'on développe, c'est la place des femmes dans la résistance. Trop souvent, en fait, la résistance, c'est aussi une histoire qui est racontée par les hommes et qui a été racontée.
Si les femmes n'avaient pas été là, hein.
Voilà, et bien sûr. Donc, et puis, alors, souvent, les femmes, voilà, elles ont été maltraitées, torturées, et pourtant, c'était très souvent les chevilles ouvrières de ce mouvement de résistance.
Quel a été l'accueil du public à ces journées où vous êtes proposer différentes conférences et aussi à cette exposition?
On a eu la surprise de voir que les habitués des archives départementales donc se sont arrêtés voir ce qui a été proposé, et on a aussi diffusé donc l'information de ces conférences par les canaux habituels, et donc on a eu des personnes extérieures, et c'est vrai que pour certaines conférences, la plupart, l'amphithéâtre des archives était plein. Et donc je pense que c'est une réussite de pouvoir proposer des événements culturels de ce genre. Voilà, on a des gens qui sont venus parler de petits villages gardois méconnus, et donc Nîmes, c'était une belle manière pour les 20 ans de mettre en avant le travail des plus humbles parmi nous, quoi, des bénévoles qui tous les jours font tout ce qu'il faut pour maintenir un patrimoine qui est tout le temps menacé et pour lequel il faut tout le temps s'investir.
Donc ce numéro, s'il y a des auditeurs qui étaient intéressés de se le procurer, donc Gare Patrimoine 2023-2024 numéro 3, donc c'est le troisième volume.
C'est le troisième volume. On a eu un premier volume sur lequel on a parlé archéologie, on a parlé des fresques du château de Moussac et du mégalithisme dans le Gard oriental. Le deuxième volume, on a principalement parlé des drones, mais aussi de la végétation de la myrte. Et on a parlé d'un château de la Capelle et Masmolène, plus un témoignage en occitan qui est du patrimoine vernaculaire qu'on a essayé de mettre en avant dans la deuxième édition. Et puis là, en fait, il y a une vingtaine d'auteurs qui ont contribué au numéro 3. Donc le volume fait quand même 150 pages. C'est, on dit une revue, mais ça devient un livre, hein, avec des photos en couleur. Et puis, ce qui est intéressant pour ceux qui s'intéressent à ce type de patrimoine,
ouais,
c'est qu'ils pourront retrouver des circuits de visite, ce que j'ai appelé moi circuit de la mémoire à travers le département. J'ai essayé de proposer des circuits de découverte des stèles, des monuments aux morts liés à la Seconde Guerre mondiale. Et à travers ça, donc il y a à peu près 180 monuments qui ont été photographiés, proposés dans cette revue. C'est l'occasion de voir parfois l'état alarmant de ce patrimoine qui parfois n'est pas entretenu parce qu'on l'oublie, parce que certaines communes n'ont certainement pas les moyens de restaurer les monuments, et puis parce que voilà, effectivement, ce sont des monuments qui sont discrets, hein. Quand on passe tous les jours à côté, ça peut être une plaque sous un pont, sous une voie, tout près d'une voie ferrée, dans un cimetière, enfin il y en avait vraiment dans des endroits incroyables. À Nîmes, il y a une concentration de stèles qui est assez impressionnante, eu égard à la douleur et au carnage imposé par la présence des occupants sur la ville, quoi.
Donc c'est une belle publication qui vaut 24 euros, on peut la trouver comment? Il faut la commander?
Alors voilà, on peut s'adresser aux éditions de La Fenestrelle, qui est une maison d'édition locale sur Uzès. Donc on peut la trouver sur Internet. Voilà.
Merci beaucoup. On se retrouve demain, Alexandre Pau, pour parler d'autres sujets de passion concernant le patrimoine, et entre autres des médiévales de Sabran qui auront lieu prochainement les 7 et 8 juin. On laisse nos auditeurs en haleine et on se donne rendez-vous demain.
À demain.